Par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis à la technique. Ça va me prendre un petit peu de temps, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes mardi 11 mai et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Retrouvez en deuxième partie d'émission une rediffusion de l'interview de Marguerite Castel, coprésidente du Club de la Presse en Bretagne, qui organise l'exposition Report Images, à découvrir au Capucin jusqu'au 27 mai. Comme tous les soirs, vous pourrez découvrir un épisode d'une collection réalisée par la Corlab. Cette semaine, découvrez l'épisode 5 de la collection de l'alimentation autrement. Au sein du centre social de Fougères, des habitants ont co-construit leur projet d'éducation alimentaire à travers une démarche d'éducation à l'environnement. À travers notre série « Demain, mais de loin », nous donnons la parole aux étudiants et étudiantes sur ce statut en 2021. Ce qui revient beaucoup, malheureusement, c'est la lassitude, l'impression d'être abandonné par le gouvernement, par l'université, d'être perdu et en difficulté. C'est notamment dans cette optique que l'on accueille ce soir l'association AlterCop, qui a mis en place une épicerie gratuite. Et avant d'en discuter avec l'équipe, je vous propose de poser un peu le contexte des épiceries avec notre reportage, sur l'Agorae, l'épicerie solidaire portée à Brest par la FEDEB, une autre initiative solidaire pour les étudiants.
Avenue Victor Le Gorgeux à Brest.
Mais qu'est-ce que tu fais?
On est à la radio, c'est sérieux. C'est pas du direct, moi.
Alors bonjour, je m'appelle Oel Drezen Petitbon. Je suis délégué général à la FEDEB et je suis aussi étudiant en troisième année de biologie.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu la FEDEB?
Alors la FEDEB, c'est la Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale. C'est une fédération d'associations qui regroupe des associations sur Brest, Quimper et Saint-Brieuc.
Donc maintenant, on va parler de l'Agorae. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, l'Agorae, c'est une épicerie sociale et solidaire destinée aux étudiants qui a été créée en 2012 à Brest. C'est un projet que porte la FEDEB, mais c'est un projet national qui est porté par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et il y a une vingtaine de villes en France où on peut trouver des agorae comme ça, qui sont des épiceries sociales et solidaires, où on retrouve en fait des produits du marché à de 10 à 20% des prix qu'on trouve dans les grandes surfaces. Pour donner un exemple, celui qu'on donne tout le temps, c'est que le paquet de pâtes qu'on retrouve à 1 euro dans les grandes surfaces, il est à 10 centimes dans cette épicerie.
C'est ouvert au public ou juste les étudiants?
Alors c'est ouvert uniquement aux étudiants et il faut avoir il y a une autre condition à respecter, c'est d'avoir un reste à vivre quotidien inférieur à 7,50 € par jour. Un reste à vivre, c'est quand vous faites le calcul entre vos dépenses et vos recettes, vous divisez ce qui vous reste par 30 et donc si ce total est inférieur à 7,50 €, vous pouvez être bénéficiaire Agorae.
On va se rendre à l'épicerie du coup, faire un petit tour, tu me présentes ça.
Ça va?
Oui, ça.
Ouais.
Alors. Bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, on arrive à l'épicerie. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le local?
Oui, pas de souci. Alors, quand on rentre dans le local, on arrive tout de suite à gauche sur, on va dire, le bureau et la caisse où on peut trouver soit les volontaires en service civique, soit les bénévoles qui sont là pour vous accueillir tous les jours et qui font l'enregistrement de la caisse. Quand on avance dans la Gorée, on trouve ensuite les produits secs et ce qui concerne, on va dire, alors soit le petit déjeuner, soit les sucreries, voilà, les confiseries. Quand on continue au fond de l'Agorae, on va trouver les produits d'hygiène plutôt. À côté de ces produits d'hygiène, on a trois réfrigérateurs où on va trouver les produits frais comme les légumes ou alors les produits laitiers. On a aussi parfois des plats tout faits ou des sandwichs qu'on peut trouver dans ces réfrigérateurs. Quand on fait le tour, on arrive sur à droite, on a les autres légumes et les fruits qui sont pas dans le réfrigérateur. Et à gauche, on a les produits secs, mais qui concernent plutôt l'alimentation et pas forcément que le petit déjeuner. Les produits plutôt salés, on va dire, comme le paquet de pâtes, les chips, qui sont pas forcément un bon exemple de bonne nutrition, mais on a des soupes ou des conserves qui sont là.
Alors là, je vois qu'il y a écrit un produit par personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors l'idée, c'est que chacun puisse bénéficier d'un produit. On refait les stocks tous les jours, mais pendant la permanence, on refait pas les stocks. Donc l'idée, c'est que quelqu'un dévalise pas l'étal et que chacun puisse bénéficier des produits. Après, comme l'épicerie est ouverte 5 jours sur 7, on peut revenir plusieurs fois par semaine faire des courses et se servir tous les jours.
Est-ce que toi, tu fais tes courses ici ?
Alors, j'ai fait un dossier. Alors, pour expliquer un petit peu, pour être bénéficiaire, il faut faire un petit dossier où on met notre reste à vivre. Et donc, j'ai fait mon dossier la semaine dernière et j'attends qu'il passe en commission avec une assistante sociale pour être validé et pour bénéficier de ces produits. Donc, dans l'idée, la semaine prochaine, je pourrais faire mes courses ici.
Ah oui, vous avez un jeu de fléchettes en plein dans l'épicerie.
En fait, dans l'idée, c'est pour faire un lieu de vie. Agorae, à la base, une agorae, c'est l'épicerie et le côté solidaire pour un lieu de vie où on combat l'inclusion, enfin l'isolement social. Et dans l'idée, on se dit, mettre un petit jeu de fléchettes pour ouvrir l'agorae hors des ouvertures d'épicerie, pour que ce soit ouvert, que les gens puissent récupérer leurs dossiers, venir en discuter avec nous. Et du coup, je ne sais pas s'il est encore très exploité du fait qu'on le mette sur une chaise et que ce ne soit pas très bien agencé, mais ça a plutôt marché. On a fait un truc vendredi dernier où on a joué aux fléchettes pendant une petite heure avec quelqu'un d'autre du bureau de la Fédé et les gens ils sont venus poser des questions, ils étaient curieux, ils étaient « Ah, c'est quoi ici ?» Et ils disaient, il y a une fille qui est passée qui a dit « Mais moi, j'ai pas le droit, mes parents ils gagnent trop d'argent. » Et du coup, ce n'est pas en fonction du revenu des parents, c'est en fonction des revenus propres à l'étudiant. Du coup, même si on n'est pas boursier, même si on n'est pas, on n'a pas trop le droit aux aides sociales, mais que notre revenu il est faible du fait que nos parents ils nous aident qu'un petit peu, ben on peut venir à l'Agorae. C'est ouvert, c'est assez largement ouvert quand même.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la provenance des produits ?
Alors, on a deux ramasses de produits, une à la banque alimentaire et une au géant casino qui nous redistribue ses invendus. Et la provenance, c'est donc ces deux structures. Après, on a des partenariats un peu ponctuels avec des produits plus locaux. On essaye de développer un partenariat avec la Biocoop, notamment pour avoir des produits bio et étendre notre offre.
Écoute, Clarisse, normalement, Salomé...
Tu restes avec ? Je voulais voir au début, ouais.
Je vais faire le premier
tour. Bon courage.
Salut. Conserve de fruits, conserve de légumes, conserve
de casso.
J'ai mis poisson.
Ouais, je pense que tu peux mettre poisson.
Ah oui, tous vos produits sont rangés par ordre alphabétique.
C'est ça, ouais.
T'es sûr que c'est poisson, hein ?
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des produits que vous vendez plus que d'autres ?
Alors là, j'en ai aucune idée. Je pense que le cliché un peu étudiant, ça va être les paquets de pâtes, notamment, surtout vu leur prix qu'on peut trouver ici.
Comment vous vous organisez pour faire vivre l'épicerie ?
Alors, cette année, on a deux volontaires en service civique qui sont spécialement dédiés sur cette mission, avec un troisième qui est en même temps sur une mission de l'Agorae et qui fait également l'accueil des étudiants internationaux, qui est une autre mission de la FEDEB. Sinon, on fait appel à des bénévoles du réseau des associations de la FEDEB et on essaye de faire participer le maximum de monde.
C'est ta première journée à la caisse ?
Oui, bah, du coup, moi, on vient en renfort avec Salomé quand il manque des personnes. Bah, comme on est dans le réseau associatif, on vient aider. Du coup, bah, Salomé, elle est de l'ACID. Enfin, non, elle a fait partie de l'ACID. Et moi, du coup, je suis encore avec en plus.
Et on va parler un peu des légumes. Je vois qu'il y a choux-fleurs, poireaux, il y a des bananes aussi, des pommes de terre. Vous avez plein de choix. C'est production locale ?
C'est récupéré des collectes de la Banque Alimentaire et du Géant. Donc,
ouais, vous n'envisagez pas de faire un partenariat avec une ferme locale ou quelque chose comme ça ?
On a alors, à la FEDEB, on a une autre activité qui est la ruche qui dit oui, où là, on va trouver des produits locaux. Mais la ruche qui dit oui est un peu indépendante de l'Agorae.
Est-ce que vous avez des projets à l'avenir pour l'épicerie ?
Alors, à l'avenir, le but, ce serait de trouver un espace un peu plus grand pour développer un lieu de vie complémentaire à l'Agorae et avoir un lieu un peu plus convivial que juste le local de l'épicerie et avoir un vrai lieu où on pourrait avoir des échanges ou un espace de détente pour les bénéficiaires.
C'est quoi les produits ? Servez-vous gratuits ?
En fait, c'est des produits qui sont un petit peu... Enfin, les tomates, quand elles sont un peu abîmées, que les gens ne les achèteront pas parce qu'elles sont abîmées. On les met à disposition, ça peut être les légumes. Et là, ça, c'est des lapins de Pâques. Donc, on en a eu des centaines après Pâques. Et on s'est dit, comme ça partait pas, autant les faire gratuitement.
Alors, du coup, tu nous dois 2 euros.
Alors, 2 euros pour... Il y a combien d'articles ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9.
10.
10, alors. 10.
Attends. Ah, oui. Voilà. Merci.
Vous êtes toujours sur Radio 101.fm et on écoute, c'est vous qui le dites. Donc, c'était le reportage sur l'Agorae. Et ce soir, donc, on n'est pas avec des membres de l'Agorae, justement, on est avec deux membres d'AlterCop, Marjorie et Elena. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre que j'ai passé le reportage de l'Agorae alors qu'on est avec AlterCop, mais en fait, c'était tout simplement pour, pas pour vous mettre en compétition, mais bien pour poser un petit peu le contexte des initiatives étudiantes qu'il peut y avoir et des initiatives qui se font. Et donc, on va revenir sur votre projet, cette épicerie. Votre épicerie, comment est-ce qu'elle s'est mise en place ?
Alors, elle s'est mise en place il y a à peu près... Enfin, le projet, l'association a été créée il y a à peu près un an et demi. Donc, ça a été pas mal freiné par le Covid, notamment, hein, comme un peu tout. Et donc, le but, c'est vraiment de mettre à disposition... des produits qui sont destinés à être jetés aux étudiants. Donc voilà, il y a une dimension écologique et une dimension sociétale du coup.
Et vous êtes aussi donc dans une démarche locale. Comment est-ce que vous choisissez les denrées alimentaires que vous récupérez ?
On va aller du coup démarcher tout ce qui va être ferme locale, etc. Pour récupérer tout ce qui va soit des produits qui ne peuvent pas être vendus du coup parce que pas la bonne taille, pas l'aspect voulu dans les supermarchés, et on va les récupérer et en échange nous allons faire les défiscaliser en fait, leur faire un, ça va être récupéré comme des dons. Et du coup, on est encore dans cette démarche de chercher des partenaires pour nous aider. Pour l'instant, on a eu un gros don de patates récemment, 500 kilos de patates.
Ah oui, quand même.
qu'on a du coup fait parmi pas mal de distributions dans différentes facs. Ça a été les actions qu'on a fait pendant le Covid, ce qui a fait qu'on n'a pas non plus totalement arrêté notre activité.
Parce qu'effectivement, il y a la loi Garot, en fait, qui oblige maintenant, depuis 2016, qui oblige les supermarchés soit à faire des promotions sur les produits dont la date de péremption approche, et puis ensuite à faire des dons aux associations. Votre épicerie, comme on l'a dit, elle est gratuite. Est-ce qu'elle l'est pour tous et toutes ?
Oui, parce que son fonctionnement est sans dossier. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu prendre en compte les étudiants qui, par exemple, ne reçoivent pas de bourse parce que le foyer fiscal de leurs parents est trop élevé, mais qui ne reçoivent pas non plus énormément d'argent de la part de leurs parents et qui, du coup, sont en situation de précarité. Donc, voilà, fonctionnement sans dossier. Et on a un site internet sur lequel on peut s'inscrire, en gros, pour ensuite bénéficier de ces distributions de denrées gratuites.
Pardon. pour le moment, vous faites donc des distributions dans les halls des UFR. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est super bien passé. On a eu vraiment un afflux d'étudiants quand même considérable. On repartait rarement le soir avec encore des choses. Clairement, on avait pas mal de produits variés, que ce soit du petit déjeuner, des patates, beaucoup de patates. pas mal de choses, vraiment beaucoup. Et on a vraiment vu une demande de la part des étudiants qui, au début, étaient peut-être gênés de venir se servir gratuitement. Mais on a vraiment cette approche différente. On vient pour combler vraiment toutes les petites failles des personnes qui passent entre les mailles parce que voilà, le foyer fiscal trop élevé, du coup pas de bourse, pas d'aide, etc. Ou le petit incident que l'étudiant a eu dans le mois, c'est-à-dire réparer sa voiture, etc. Et on est vraiment là pour but de combler ces failles, ces petits besoins d'argent que les étudiants ont parfois à la fin du mois. Et du coup, on a pu voir vraiment une grande affluence des étudiants.
Ce qui à la fois est positif et à la fois négatif, malheureusement. Et pour le moment, donc, vous n'avez pas de local, parce que si mes informations sont bonnes, l'université n'a plus de place pour vous donner des locaux, justement. Donc vous en cherchez un au centre-ville. Et vous souhaitez qu'il soit proche de la fac de lettres. Pourquoi ce souhait ?
Parce que... On est en coopération avec l'Alternative qui a son local au sein de l'UFR de Lettres, justement. Et c'est aussi pour une question d'accessibilité. Clairement, le centre-ville, c'est une place de choix. Souvent, les étudiants, ils habitent pas trop loin de leur lieu d'études. Donc, faut un endroit qui soit accessible en transport au commun aussi. Où les gens peuvent venir sans peine.
Et justement, en parlant de l'Alternative UBO, effectivement, si mes informations sont bonnes, l'association, donc, elle a été mise en place par plusieurs membres du syndicat étudiant l'Alternative UBO. Qu'est-ce que ça apporte au projet, le fait d'être syndiqué et syndicat ?
Eh bien, ça apporte... Déjà, je pense de la crédibilité, parce que l'Alternative, c'est quelque chose qui est quand même bien en place maintenant, qui a des locaux, qui est vraiment bien installé. Et du coup, on a moyen de justement recruter des bénévoles plus facilement, qui connaissent déjà l'Alter, etc. Au niveau de la com, c'est plus facile aussi, parce que ceux qui connaissent l'Alter, du coup, connaissent l'AlterCop. Ça marche dans les deux sens, en fait. Et ça peut nous apporter vraiment beaucoup d'aide, même financière, en fait.
Parce que tu parles de bénévoles, j'imagine que c'est une organisation qui est quand même assez, assez lourde. Comment ça s'organise, justement, à l'intérieur de votre association ?
Eh bien, on fait des réunions. Donc, en temps de Covid, c'est en distanciel, malheureusement. Mais là, on va pouvoir un peu reprendre les réunions en présentiel. Donc, déjà, c'est vraiment bien. Et du coup, on fait des réunions, vraiment pas mal de réunions.
Beaucoup de discussions.
J'imagine.
Et on discute vraiment de choses très concrètes pour nous apporter de l'aide. Donc, par exemple... Participer à des appels à projets. Récemment, on a eu la réponse favorable de France Relance, qui nous a accordé 50 000 euros d'aide pour notre lancement. Donc du coup, on espère pouvoir se lancer réellement en septembre. Du coup, trouver un local d'ici là et trouver d'autres partenaires.
C'est génial parce que c'était ma prochaine question.
Transition de folie.
Incroyable, comme si c'était fait exprès, mais ça ne l'est pas. C'est vrai qu'il a été et il est encore beaucoup reproché à l'État de ne pas prendre assez en considération les difficultés étudiantes. Et vous, vous faites partie justement des 9 associations finistériennes qui ont été lauréates du plan de soutien donc aux associations de lutte contre la pauvreté. Je voulais vous demander qu'est-ce que ça signifie pour vous, mais j'imagine que du coup c'est ça, c'est que c'est une aide financière qui va permettre de mettre des choses en place.
Elle va permettre déjà le lancement, comme Marjorie a dit, elle va permettre de trouver un local déjà, parce que du coup notre difficulté à en avoir un va pouvoir être un peu facilitée grâce à cette aide. On va aussi pouvoir peut-être investir ou pas. On a par exemple Don Bosco qui nous donne un frigo pour tout ce qui va être frais, mais dans du mobilier de seconde main pour pouvoir remplir ce local.
C'est ça, parce qu'on n'imagine pas forcément, mais en fait dans un local il y a déjà le loyer, il y a le fait de prendre un ou plusieurs frigos, des étalages, tout ça. Donc effectivement, j'imagine qu'en plus quand on est étudiant, ça peut être compliqué de louer un local, donc je pense que c'est aussi pour ça que peut-être être syndicat, ça peut, c'est, je pense que c'était ce dont tu parlais aussi, le fait d'avoir de la crédibilité.
Oui, tout à fait, ça donne vraiment un poids supplémentaire en fait à notre demande. Et même si du coup pour le local, bon évidemment, on va en louer un, on est en train de fouiller un peu toutes les annonces, mais on va aussi beaucoup fonctionner sur la récupération de meubles, la récupération d'objets. On va fonctionner vraiment par le don en fait, donc comme a dit Elena, avec les frigos, etc. On va aussi mettre nos petites mains à la tâche et fabriquer par exemple un appareil pour le vrac, parce qu'on a prévu justement de mettre en vrac les denrées sèches. Comme ça, chaque étudiant peut prendre ce dont il a besoin et ainsi éviter le gaspillage alimentaire, par exemple, et laisser des denrées pour tout le monde.
Je voudrais revenir un peu plus généralement donc sur la précarité des étudiants. Si on revient quelques mois avant l'épidémie de Covid-19, donc en novembre 2019, on avait Anas Kournif, un étudiant qui s'est immolé devant un Crous à Lyon parce qu'il était désespéré donc par sa situation précaire. Et toujours en 2019, d'après l'UNEF, on avait près de 20% des étudiants qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc le sujet de la précarité étudiante, il n'est pas nouveau, vous avez déjà communiqué sur ça, mais au vu de la situation sanitaire qu'on connaît et qui dure, quel est votre constat face à la précarité justement qui explose ?
Elle est présente plus que jamais parmi les étudiants, et c'est aussi un moteur en fait pour notre action. Vraiment, ça nous motive parce qu'on voit vraiment que c'est presque une menace en fait. Qui est là, qui est présente au-dessus de la tête de beaucoup d'étudiants. Et on se doit d'agir, en fait, pour ça.
Est-ce que depuis que vous faites ces distributions, vous avez pu discuter un petit peu avec des étudiants et des étudiantes, avoir leurs sentiments, avoir leur avis ?
Absolument. Ce qui en est ressorti, du moins ce que moi je... j'en ai tiré de mes conversations avec lors des distributions, c'est les étudiants ont un grand sentiment du coup d'abandon, de lassement, et voir que il y a parfois des distributions comme ça, ça leur a donné un peu de joie. Moi je me rappelle, j'étais en train de tenir du coup la distribution, et une jeune fille est venue chercher des pommes. Et elle est repartie avec son petit lot de pommes, avec un grand sourire, et juste heureuse d'avoir ses pommes, en fait, et son paquet de pâtes. Et ça fait ça beaucoup de de compléter ses besoins, ça donne beaucoup d'espoir et d'envie d'aider aussi de notre part, et puis un peu de légèreté.
Est-ce que vous êtes en contact justement avec d'autres associations, d'autres établissements par exemple pour mettre en place votre projet?
Alors y a l'alternative comme on a dit, hein, évidemment. Et récemment du coup on a demandé au Bige de nous fournir un local, enfin s'ils en avaient
Je précise juste, c'est le bureau d'information jeunesse pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Oui. Pardon, je t'ai coupé du coup.
Pas de souci. Préciser, c'est bien. Mais oui, enfin on a été en contact avec avec le Bige du coup, qui a malheureusement refusé notre demande. Mais oui, on est quand même en contact avec d'autres organismes qui sont proches de la jeunesse, en fait. On est pareil en contact forcément avec la fac, l'UBO, et qui nous a proposé de nous financer aussi.
Et en tant qu'association qui organise donc cette AlterCop, cette épicerie gratuite, quel est votre sentiment vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'accompagnement de l'université, vis-à-vis de la situation étudiante à l'heure actuelle?
Eh bien, déjà, on est quand même content et très reconnaissant pour l'aide qui nous est accordée et tout. Enfin, clairement, le projet, l'appel à projet France Relance, ça nous a vraiment boosté, vraiment, ça a mis du concret là-dedans. Pareil pour la réponse favorable de la fac à nous donner une subvention. Et mais en soi, le problème des étudiants, c'est malheureux, mais ils nous boostent aussi. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Ça me paraît tellement naturel, mettre des mots dessus, c'est presque compliqué.
Ouais, j'imagine aider les étudiants qui en ont vraiment besoin, et alors que vous êtes étudiant et vous savez justement ce que c'est un petit peu.
Tout à fait. Personnellement, je suis étudiante boursière, totalement indépendante. Ma famille ne m'aide pas. Je n'ai plus de contact avec eux, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est quand même très compliqué d'avoir une vie d'adulte à peine 20 ans. Donc, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, vraiment, par solidarité pure, en fait, ça me paraît extrêmement important d'aider les gens qui sont dans ma situation ou dans une situation similaire.
Moi, je suis à peu près dans le même cas que ma collègue, mais moi, je suis pas boursière. Le foyer fiscal étant trop haut, pourtant, mes parents ne m'aident pas plus que ça, et ce qui fait que moi aussi, finir les fins de mois, c'est compliqué, régulièrement. Mais aider, en fait, c'est ça fait du bien, parce que je me dis que y a pas que moi qui suis dans cette situation, et que cette personne auront un peu plus ce mois-ci que les autres mois, et que du coup vraiment c'est positif, les distributions, dans le sens on aide, mais le fait que cette vraiment précarité soit présente et si accrochée, si vraiment ce serait presque... Vraiment, c'est naturel, en fait. C'est vraiment dur de poser des mots, parce qu'on est presque tous face à ça, en fait. Et c'est très triste. C'est vraiment... c'est lourd.
Ouais, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que... Vous me dites si je me trompe, mais c'est un projet qui vous tient à cœur. Mais surtout, j'ai l'impression que malgré tout, la situation, elle est tellement compliquée que même vous avez du mal à l'exprimer, en fait, peut-être.
Nous, la chose qu'on peut faire, c'est agir concrètement. Donc, face à tout ça, face à ce qu'on vit, ce qu'on observe chez nos amis, chez même des retours de personnes qu'on croise à la fac ou lors des distributions, c'est juste ça, c'est agir qu'on peut faire, et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on fait.
Vous avez l'impression que comment dire, je sais pas trop comment poser ma question pour ne pas l'orienter, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a assez de choses qui sont faites pour les étudiants?
Clairement...
Pas assez.
Non, pas vraiment. Parce que, alors, ok, le gouvernement a mis en place le système de bourse, etc.
Les rues à 1 euro.
Ouais, les rues à 1 euro, pas mal d'aides comme ça. Mais au final, il y a quand même beaucoup de gens qui passent entre les mailles du filet, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça reste quand même très, très compliqué, quoi. Donc, bah, personnellement, je suis obligée de faire une demande d'ASA au lieu d'une demande de bourse.
Demande d'ASA, est-ce que tu peux préciser ce que c'est ?
Une demande d'ASA, c'est une aide accordée pour soit les étudiants qui sont trop âgés ou en reprise d'études, soit les étudiants qui sont en situation de rupture familiale. J'en fais partie. Ou les étudiants qui sont orphelins, ou ce genre de cas... qui peuvent paraître comme des exceptions, mais qui en fait existent tout à fait. Donc là, je suis obligée de contourner le système de bourse, parce que si je l'écoute, déjà, je ne peux pas fournir les documents. Donc il y a tout l'aspect administratif qui aussi pèse sur les étudiants. Là, on va en revenir au fait qu'on fonctionne sans dossier. Donc ça enlève cette barrière administrative déjà. Et c'est vraiment un moyen de contourner, vraiment récupérer les étudiants qui sont qui passent entre les mailles du filet pour les aides.
Est-ce que face à ce projet, vous vous êtes retrouvés face à des personnes qui avaient soit des réticences, soit qui étaient clairement contre ?
On a pu voir des personnes qui se sont dit, lorsqu'on allait présenter le projet, on a eu des partenaires qui nous ont dit, mais il faut faire payer, un petit peu, mais il faut faire payer. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut de la gratuité, parce que on veut pouvoir vraiment, faut enlever cette honte, faut enlever cette peur de la gratuité. En fait, non, c'est pas comme ça. C'est tu as besoin, on te donne. On te donne ce que t'as besoin pour vivre jusqu'à la fin du mois. Parce que c'est pas... Il faudrait pas dire... nous, on part du principe qu'il faut vraiment pouvoir répondre à tout le monde. À tous ces étudiants ont peur de remplir des dossiers. Ont peur vraiment... ou ne peuvent pas, parce que les barrières de la langue... On a eu des étudiants lors des distributions qui ne parlaient pas français, qui étaient venus avec des traducteurs, des interprètes. Vraiment... Tout ce côté administratif qui est vraiment une barrière, on la rompt parce qu'on veut vraiment partir du principe que c'est gratuit et c'est comme ça.
C'est gratuit et c'est ouvert en fait, vraiment à tout le monde et sans barrière, avec le moins de barrières possible.
On a eu des étudiants en distribution qui nous demandaient, faut présenter la carte étudiante, faut présenter quelque chose. Non, c'est ouvert, c'est tout le monde.
Parce qu'effectivement, en tout cas de ce qu'on peut entendre assez régulièrement et généralement sur la gratuité, c'est que des personnes vont profiter du système. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Ça se passe pas comme ça. Pour avoir fait des distributions, c'est les personnes qui en ont besoin qui viennent. Ceux qui en ont pas besoin, ils viennent pas parce que ça les concerne pas. Et il y a pas de personnes qui viennent profiter. Non, ils viennent parce qu'ils en ont besoin et c'est tout.
Mais c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en place avec l'ouverture sans dossier. C'est vraiment cette confiance, faire confiance aux étudiants, faire confiance aux jeunes qui viennent quand ils nous disent qu'ils ont de la peine à finir le mois, que vraiment financièrement c'est dur. Et du coup, l'impact psychologique est là aussi. Faut pas contourner cette question non plus. Psychologiquement, ne pas pouvoir finir le mois ou avoir 20 euros pour finir le mois, c'est compliqué. Ça rajoute un stress, une angoisse. J'ai beaucoup d'amis ou de connaissances qui sont dans ce cas-là. Et vraiment, entendre ce discours-là, c'est dur. Et du coup, faut vraiment essayer de pallier à tout ça, quoi.
Tu parles de confiance, t'as l'impression que... Enfin, vous avez l'impression qu'on fait pas assez confiance aux étudiants ?
Clairement, je pense pas, parce que sinon il y aurait pas tous ces débats sur les aides, sur la gratuité, sur vraiment tout cet univers-là, toute cette sphère-là. Et le fait qu'il y ait toujours plus de revendications, pardon, plus de manifestations, plus de paroles sur les réseaux sociaux notamment, etc. C'est vraiment, ça traduit quelque chose de bien, bien réel. Et j'ai l'impression que ce soit le gouvernement, que ce soit les universités en elles-mêmes, que ce soit les CROUS, que tous ces organismes-là ne prêtent pas assez attention et ne prennent pas assez en considération la parole même des étudiants.
On va revenir un petit peu sur l'Altercom, même si c'est bientôt l'heure. Est-ce que vous avez des prochaines distributions?
Alors, on n'a pas encore discuté. On est vraiment dans la recherche de local. Ces derniers temps, vraiment, le fil d'actualité, c'est le local. Ça va être trouver un local parce que c'est pour revenir à ce que Marjorie disait, c'est le local, en plus d'être une épicerie gratuite, sera aussi un lieu de vie, un lieu où on accueillera les étudiants pour les aider à faire des dossiers pour des aides. Parce que tous les étudiants ne sont pas au courant de toutes les aides qui existent. Tous ne savent pas les remplir ou n'osent pas les remplir ou n'arrivent pas à les remplir. Et vraiment, ce sera un lieu de vie où on pourra discuter aussi de l'aspect psychologique, l'aspect qui pèse en fait. Et en plus, aider à remplir des dossiers pour aider en fait. Notre but, c'est vraiment d'aider au maximum. Et du coup, les distributions en ce moment, c'est pas vraiment la conversation qu'on a.
Non, par contre,
on la pose régulièrement.
Oui, c'est sûr. Et puis là, on va avoir une réunion en présentiel cette semaine. Donc, bien sûr, avec tous les gestes barrières, etc. Et ce sera l'occasion, justement, d'en discuter et peut-être même de programmer de nouvelles distributions.
En tout cas, pour savoir ça, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, sous le nom d'Altercop. Et en général, bah, on poste dès qu'on a une distribution. C'est de façon relayée par l'alternative de toute manière. On s'entraide, on essaie de toucher le maximum de personnes. Donc si on veut nous retrouver sur les réseaux sociaux ou par mail.
Ou sur le site internet.
Ou sur le site internet.
Aussi.
Nouveau.
Qui est encore en cours de construction, mais néanmoins accessible. Et du coup, il y aura des informations prochainement dessus. Notamment puisqu'on recherche un service civique pour nous aider dans tous nos projets fabuleux. Et voilà, du coup, il y aura des petites annonces. De toute façon, ce sera relayé sur les réseaux sociaux. Ce sera accessible, les informations seront présentes. Et voilà.
Eh bien, Marjorie et Elena, merci d'être venues ce soir.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus.
Avec grand plaisir. Et puis, donc, nous, on se retrouve juste après Believe in You de Machine Drum. Vous écoutez toujours, c'est vous qui le dites, sur le 101.1 FM. On a écouté Believe in You de Machine Drum. Et donc je vais vous laisser découvrir ou redécouvrir l'interview de Marguerite Castel, coprésidente du Club de la Presse en Bretagne, qui organise l'exposition Report Image, qui est donc à découvrir au Capucin jusqu'au 27 mai. Bonjour Marguerite Castel.
Bonjour.
Donc vous êtes copilote de la 4e édition de Report Image, organisée par le Club de la Presse de Bretagne. Et est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler les principales missions et engagements du club ?
Alors, le Club de la Presse de Bretagne est un réseau professionnel qui rassemble des journalistes en majorité et également qui est ouvert aux communicants. On trouve aussi des photographes, des graphistes, enfin bon. Donc, l'idée du club, c'est effectivement d'être un peu comme une maison des journalistes, tous les métiers qui travaillent dans le domaine de l'information et de la communication. Voilà, notre intention est d'échanger un peu sur nos pratiques professionnelles qui ont évolué énormément. Je rappelle que le club a été créé en 1974, je crois que c'est le plus ancien de France. C'est un réseau professionnel qui essaye de répondre aux attentes de ses membres en termes de formation aussi, former à des nouveaux outils, réaliser un podcast. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus basique, comment bien rédiger un communiqué de presse. Hein, voilà. On organise aussi des événements, dont Report Image, qui est une exposition dédiée au photoreportage. Et donc la vocation de cette expo, c'est effectivement de toucher le grand public et de lui faire découvrir ce qu'est le travail d'un photoreporter et de bien lui donner la dimension documentaire de son travail. Voilà, parce qu'une photo de presse, c'est une information aussi. Ça peut être une image travaillée avec une signature esthétique, bien entendu. Mais nous, ce qu'on met effectivement en avant, ce qu'on veut vraiment souligner, c'est la valeur documentaire de ce travail et dire aussi que les photographes sont un maillon essentiel aussi dans le paysage de l'information et que leur travail n'est pas toujours valorisé. Et derrière tout ça, il y a effectivement l'idée quand même aussi de rappeler qu'on défend la liberté d'informer et c'est aussi pour tous les citoyens la liberté d'être informé.
Donc l'exposition, elle est au Capucin jusqu'au 27 mai. Nous propose 80 photographies. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces photos ?
Bah, ces photos sont issues de reportages divers qui touchent à des sujets. On touche à l'environnement. Par exemple, il y a un très beau reportage sur la pollution par le mercure au Pérou. C'est un reportage d'Olivier Denard. Donc voilà, à travers 8 photos, on voit effectivement tous les dégâts faits par le mercure et tout ce que la population essaye de faire pour réparer ça, avec l'aide de l'armée d'ailleurs. Il y a une photo très très symbolique où on voit l'armée qui apporte des arbres donc pour replanter cette zone qui a été sinistrée, enfin qui a été polluée. On a des sujets de société. Là, je pense à un reportage de Vincent Gouriou qui s'appelle « Loi bioéthique, allô maman bientôt ». Alors ça, c'est un travail au long cours. Et Vincent Gouriou a suivi un couple de femmes qui souhaitaient avoir un enfant. Et donc la loi ne leur permet pas en France. Donc ils ont dû aller en Belgique pour recourir à une PMA, procréation médicalement assistée. Et donc il a suivi leur histoire sur plusieurs années. On voit les enfants bébés et jusqu'à leur 7-8 ans là. Donc c'est vraiment, il y a une approche très esthétique de ce sujet, des très belles photos des enfants et de leur maman. Et pour le relier à l'actualité, en fait, voilà, l'une de ces photos a été publiée dans Libé lorsque la loi a été examinée à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, elle n'est toujours pas votée, hein, mais voilà. Donc c'est vraiment, ça fait écho, voilà, c'est l'idée de notion de famille, c'est un témoignage sur une famille qui n'est pas un papa, une maman et des enfants, mais deux mamans. Donc c'est intéressant aussi. On a un sujet que je dirais là qui touche à l'ethnologie, ça s'appelle Funérailles Vaudou. Donc c'est un reportage de Jean-Claude Moschetti qui a été fait au Bénin. il a eu des contacts pour pouvoir suivre effectivement de près un, des funérailles vaudou. Voilà, donc il explique tout ce que ça. Que ça symbolise, c'est un coup d'œil sur un rite qui nous semble très éloigné de notre culture, mais qui pour autant est très intéressant. On a aussi un reportage un peu culturel sur le travail de Ricardo Cavallo, qui est un peintre qui vit en France depuis 25 ans, qui est argentin d'origine, et il s'est établi à Saint-Jean-du-Loire, donc dans le Finistère Nord. Et ce peintre peint sur la roche, il peint sur une toile effectivement, mais tout le temps dans son décor, et il peint inlassablement la roche magmatique. À la fois son travail d'artiste à lui est très étonnant, et le travail du photographe, le regard posé sur cet artiste est aussi très très sensible, et les photos sont magnifiques.
Et justement, je voulais vous demander aussi, donc par rapport à Natacha Souris, donc on va l'avoir en interview juste après, qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement dans son photoreportage ?
Bah déjà l'idée, il y a une espèce de tabou sur les naissances par césarienne, une crainte. Je pense qu'elle démystifie ainsi cet accouchement, cette naissance par césarienne. Il y a une approche très humaine, en fait, à la fois sur la maman et sur le personnel médical qui l'entoure et qui l'aide à mettre au monde son enfant. C'est réaliste sans être trop clinique, voilà.
Et donc on en a parlé un petit peu, le club il se mobilise beaucoup pour la liberté d'expression, contre notamment la loi sécurité globale. Est-ce que l'exposition, elle s'inscrit dans ce mouvement politique et on peut dire contestataire ?
À mon sens, oui, elle peut tout à fait, parce qu'effectivement, elle affirme sans manifester, sans slogan, on va dire, quelque chose de fait, c'est qu'effectivement, ces photos, elles sont possibles, on peut les montrer, cette liberté de faire du reportage et de le diffuser est menacée. Effectivement, le club s'est mobilisé avec toute une coordination régionale et nationale. L'impression va continuer auprès des parlementaires, parce que c'est très mal engagé, là.
On est actuellement en confinement, semi-confinement. Pour autant, vous avez fait le choix de maintenir cette exposition. Est-ce que c'était un choix évident pour vous ?
Ah oui, on n'a pas eu de doute. On était d'ailleurs très soulagés d'apprendre que les capucins restaient ouverts, hein, parce que la crainte qu'on avait, c'était que qu'ils soient fermés au public. Je pense que l'exposition aura deux vies à Brest, c'est-à-dire donc les deux, trois premières semaines avec effectivement des visiteurs supposés être dans un rayon de 10 km, ce qui représente quand même la métropole de Brest. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, un public qui pourra venir de plus loin. L'autre jour, en accrochant l'expo, j'étais étonnée effectivement de voir pas mal d'enfants qui circulaient en roller, en trottinette, et qui sont passés voir l'expo. Je voyais aussi des ados qui dansaient. Enfin, ça s'anime par sa vie urbaine, tout simplement. C'est comme une place publique, hein, les Capucins. Hein, c'est une place publique et couverte, et donc les gens y passent. La médiathèque qui est ouverte, donc il y a quand même un peu de passage. Mais évidemment qu'il fallait maintenir. Hein, ça, effectivement, il y a très peu d'expos par ailleurs, donc peut-être que ça permet aussi aux gens d'aller voir quelque chose. Enfin, voilà, mais évidemment, on n'aurait pas annulé.
Mais écoutez, Marguerite Castel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Eh ben, je vous en prie, c'était un plaisir de nous avoir sollicités. Merci à vous. Et puis, j'espère que vos auditeurs se déplaceront au Capucin, et surtout pour voir l'expo. Et tout le monde peut consulter en ligne sur le site du Club de la Presse de Bretagne. Il y a un onglet Report Images. Là, vous pouvez découvrir une galerie de photos par photographe, et aussi leur interview vidéo et un entretien podcast qui permet effectivement de s'immerger davantage dans leur reportage et avec eux.
C'est noté. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et vous êtes toujours sur le 101.1 FM à Brest. C'était l'interview de Marguerite Castel, coprésidente du Club de la Presse de Bretagne, donc qui organise l'exposition Report Images. Et si vous souhaitez écouter l'interview de la photographe Natacha Souris, rendez-vous sur le site internet de Radio U. C'est l'heure pour nous de nous retrouver avec l'épisode de ce soir de l'alimentation autrement. Le pays fait face aujourd'hui à des pathologies chroniques d'origine alimentaire, lourdes tant sur le plan économique que sur le plan sociétal. L'éducation à l'alimentation durable recouvre de nombreux enjeux de société, santé publique, environnement, aménagement du territoire, économie agricole, sociaux et culturels. Afin que chacun puisse choisir son alimentation et que celle-ci soit favorable à son bien-être et à sa santé, il doit disposer des savoir-faire, savoir-être et savoir-faire nécessaires. Les approches éducatives sont très diverses et les actions de sensibilisation sont également variées. Les acteurs sont, eux, très diversifiés sur le territoire régional. Tous sont inventifs, créatifs et dynamiques. C'est le cas du centre social Famille Active à Fougères.
Alors nous, une alimentation positive, c'est une alimentation pour moi qui est déjà réfléchie.
L'alimentation.
C'est-à-dire que tout simplement...
Autrement.
Se poser quelques questions avant d'aller acheter, c'est déjà une première des bases. Trouver une alimentation qui soit adaptée à notre mode de vie, qui soit adaptée à nos contraintes aussi.
L'alimentation autrement. Une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
Bonjour. Bonjour.
Pourquoi je vous ai rencontré?
Bonjour.
En fonction des budgets, en fonction d'où on habite, on n'a pas forcément le même accès à cette alimentation. Et puis, de manière générale, c'est bien sûr une alimentation, pour moi, qui est basée sur les saisons, une alimentation en circuit court et une alimentation issue d'une agriculture, on va dire, durable.
C'est notre métier, c'est d'être en lien avec les habitants au plus près de chez eux. Donc on va faire des actions qu'on appelle d'animation sociale globale, donc d'animation de loisirs en pied d'immeuble, de faire des actions d'accès aux pratiques de loisirs artistiques, par exemple avec les enfants. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que les goûters qu'on est en train de faire, peut mieux faire. Puis on en parle aux parents qui nous disent j'aimerais mieux faire, mais comment m'y prendre? Eh ben, on va voir comment vous y prendre. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui. Est-ce que ça vous intéresserait de venir à un atelier pour qu'on fabrique des gâteaux avec vos enfants? Oui. Il n'y a plus qu'à fixer les dates. On va acheter de la farine, du chocolat, et on apprend à faire ensemble. Et après, bien évidemment, les enfants, parce que on fait ça d'une manière pédagogique, certes, mais d'une manière ludique surtout. Dans un moment de loisir, de plaisir, de rigolade. Et donc, les enfants, quand ils reviennent à la maison, alors ça, ils ont qu'une envie, c'est qu'on recommence. La maman voit qu'elle a un impact éducatif avec ses enfants de manière simple. Donc, on va parler d'autres types de... On rentre par le goûter, parce que c'est assez simple. Et puis après, on fabrique d'autres choses que le goûter. On pousse le bouchon un petit peu plus loin. Par exemple, on va faire des ateliers d'insertion cuisine d'ici, cuisine d'ailleurs. Donc ça va être des personnes qui sont demandeuses d'asile, qui vont s'inscrire à des ateliers où c'est eux qui vont nous apprendre à cuisiner leurs recettes. Et puis la semaine d'après, avec des habitants de Fougères, c'est des habitants de Fougères qui vont mettre en place telle ou telle recette à mettre en œuvre. Donc là, bien évidemment, les échange interculturel, mais là encore, au maximum, à un moment donné, avec des produits locaux, des produits accessibles financièrement et bio au maximum.
C'est un jardin qu'on récupère de la ville de Fougères, qui souhaite que des associations s'occupent de ce jardin pour le mettre à disposition des habitants.
D'accord.
Voilà, qu'on y fasse des ateliers, des animations. Donc avec plusieurs associations, on est en train de s'organiser pour le nettoyer, pour développer des parcelles et puis faire un petit calendrier d'animation.
En fait. Depuis peu, ça fait un moment qu'on le fait, mais là depuis un certain temps, on a un jardinier qui prépare des fraises, qui prépare la ciboulette, qui prépare les choses comme ça, et les enfants viennent chercher. Donc quand on va faire des fraises au goûter, c'est pas des fraises qui viennent du magasin, même si globalement elles peuvent venir du magasin ou de la MAP. Les fraises, elles viennent du jardin. C'est les gamins qui sont allés les ramasser. Donc, je peux vous dire que là, ça change la donne. Le jardinage, pour nous, alors il y a un côté se réapproprier ses propres espaces. Et puis, pour que ces espaces-là puissent servir. Et donc, à quoi ça peut servir à faire du loisir, mais le loisir ça peut être à travers le jardinage. Alors on va pas jardiner en disant là on va planter 50 mètres de 40 rayons sur 50 mètres de patates et tout ça. On est plutôt dans le jardinage loisir et plaisir, mais l'objet c'est quand même de produire des choses que l'on mange. Et puis de faire également de l'animation en pied d'immeuble, d'où essayer de trouver une dinette. C'était ça l'entrée, hein. C'est d'avoir une dinette, c'est-à-dire qu'on puisse faire d'aller au jardin, faire une récolte et la cuisiner tout de suite ensemble au pied de l'immeuble. On ne parle pas que de carottes, de tomates et de la qualité des pommes qu'on a récoltées, hein. On parle interculturel, on parle spectacle, on parle éducation des enfants tout en coupant les tomates et les carottes, hein. C'est ça ce qui se passe en fait, hein.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.
À travers là, ça crée des discussions, des échanges. Voilà, enfin, on est vraiment dans cette notion-là pour que d'amener petits et les parents, les jeunes ou les familles ou des adultes à être en conscience de ce qu'ils produisent pour pouvoir faire des choix éclairés. C'est vraiment ça notre boulot. C'est vraiment ça notre boulot.
C'est vous qui le dites, est terminé pour aujourd'hui. Merci à Marjorie et Elena de l'AlterCop d'être venues ce soir. Je rappelle que toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet, mais également sur leur réseau. Bonne soirée à tout le monde et n'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts et toutes nos émissions sur le site internet de Radio U.